Est-il nécessaire de présenter Jean Vanier ? Jean, tu as créé l'Arche en août 64, en ouvrant le premier foyer de vie qui a accueilli deux personnes porteuses d'un handicap mental, ici, à Trolley-Breuil. J'ai eu la joie de vivre 6 années au sein d'un foyer dans cette communauté. Nous étions invités chaque jour à vivre l'Évangile au quotidien, auprès des pauvres avec un P majuscule. Depuis 2004, tu nous accueilles ici, à la ferme, à l'Arche. C'est à chaque fois une émotion renouvelée, car de réunir de Vénérables en Christ et l'Arche, deux lieux très importants pour moi, deux écoles de vie qui, au fond, délivrent le même message, accueillir la personne telle qu'elle est, avec toute son humanité, sa fragilité, sa beauté, sa richesse. Alors, merci d'avance pour tout ce qu'on va recevoir durant ce week-end avec toi.
Alors, bonjour. Heureux de vous accueillir. Moi, je suis Jean. Je suis Picard depuis 52 ans, donc dans ce village. Heureux d'être ici et heureux que la ferme peut vous accueillir. Et j'espère que vous allez passer un bon week-end. Vous avez quand même pas mal d'attentes et le temps est très court. Déjà demain, midi, on est presque parti. C'est 24 heures. Enfin, je suis très content que vous êtes là. Et j'espère que tout marchera bien, que les douches seront chaudes, qu'il y aura assez de café le matin, etc. Enfin, j'espère que vous serez bien. Alors, je suis... D'abord, je voulais vous remercier. J'aime bien écouter les gens avec qui je vais parler. Au moins, je connais votre nom. J'aurais oublié si tu viens de quel coin de France ou ailleurs, mais j'ai besoin de regarder les gens dans les yeux. Sinon, je viens et puis j'aurais voulu écouter chacun beaucoup plus longuement, mais ce n'est pas possible. Et puis maintenant, j'ai 88 ans, je vois... que dans 2 ans, j'aurai 90 ans. On m'a toujours dit que ça, c'était vieux. Alors, on essaye de continuer. Le bon Dieu me donne un peu de force encore et heureux de pouvoir vous accueillir. L'Arche a commencé après quand même une longue histoire chez moi. Et un des moments très importants dans mon histoire. Je suis une famille qui était, comment dirais-je, touchée par la guerre. Mon papa a passé 3 ans dans les tranchées près d'Amiens, d'Arras. La bataille de la Somme, où 45 000 Anglais ont été tués dans une journée. Mon papa avait sa jambe amputée. Donc nous sommes une famille qui était dans l'environnement de la guerre. Nous étions en France en famille quand les Allemands ont pénétré à travers la Belgique. Nous étions des réfugiés, comme tant de réfugiés aujourd'hui. Nous étions des réfugiés, mais à travers la France. Et puis finalement, on a pu être sur un bateau de guerre anglais, et puis finalement arriver au Canada. Et 2 ans après, quand j'avais 13 ans, il y avait quelque chose en moi où je savais que je devais retourner en Angleterre pour entrer dans la marine anglaise. Je savais. Et bien sûr, il fallait que j'en parle à mon papa, qui n'était pas tellement content. Et la conversation s'est terminée avec mon papa m'a dit « J'ai confiance en toi. Si tu veux le faire, il faut que tu le fasses. » Je crois que c'était un moment très, très important. D'abord, que quelqu'un ait confiance en moi et que ce soit mon papa. Et deuxièmement, avoir confiance dans mes propres désirs. S'il avait dit non, c'était son plus que son droit, j'avais 13 ans, j'aurais dit bon, c'est comme ça. Mais j'aurais beaucoup souffert. Alors, je suis parti en Angleterre. À ce moment-là, la guerre s'est faite sur l'Atlantique. Parce que les bateaux des États-Unis, du Canada, partaient pour transporter en Angleterre les troupes, les munitions, les armements qui étaient nécessaires pour débarquer en France en juin, deux ans plus tard, juin 1944. J'ai vécu 8 ans dans la marine. Et puis à un moment, je savais que je ne pouvais pas rester. Apprendre toute ma vie à tuer des gens, à défendre, attaquer, etc. Et découvrir les nouveaux armements. Et la seule chose qui m'attirait, seule personne, c'était Jésus et l'Évangile. C'est seulement l'Évangile qui donnait une vision du monde, un monde coupé entre les riches et les pauvres. Un monde de guerre et Jésus qui venait apprendre quelque chose d'extraordinaire pour faire l'unité. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Parlez en bien de ceux qui parlent mal de vous. Priez pour ceux qui vous persécutent. Cette vision de Jésus, cette vision de l'Évangile, c'était extraordinaire. Alors j'avais envie de suivre ce Jésus qui apportait une vision et une solution pour notre monde. J'ai failli entrer dans une communauté à New York même, qui était avec le peuple noir, Harlem. Et ça c'est en 1950 où il y avait beaucoup de souffrance dans ce Harlem, New York, et j'avais trouvé une petite communauté là-bas qui m'attirait beaucoup. Vivre au milieu des gens en difficulté, humiliés pour une raison ou une autre. Je suis venu en France, j'ai fait des études. J'ai même commencé un petit enseignement au Canada. Et finalement, c'est en 63-64, j'ai découvert le monde des personnes avec des handicaps intellectuels. Et j'étais choqué, ce que j'ai vu. Pas loin d'ici, il y a l'hôpital de Clermont. À cette époque-là, on parle maintenant de 63-64, il y avait 4500 malades à Clermont. Parmi les 4500 malades, il y avait au moins 1000 personnes avec un handicap. L'hôpital était comme une sorte d'asile pour tous ceux qui n'avaient pas de place. J'ai découvert une institution près de Meaux, très fermé, où il y avait 80 hommes avec un handicap enfermés dans un ancien monastère. Et j'ai visité cette institution, les 80 hommes, pas de travail, s'ennuyaient, il y avait deux dortoirs de 40 hommes, pas d'effet personnel, juste les lits à côté des autres. Un lieu d'immense souffrance. C'était fondé par une femme avec beaucoup de cœur, mais n'avait pas beaucoup de tête. Elle accueillait tout le monde qui disait « Vous pouvez prendre mon enfant ». Alors, elle accueillait des gens pour soulager les parents, mais pas pour aider les gens à grandir, à trouver leur identité d'homme ou d'homme. Donc, c'était un lieu de malheur, bien qu'il y avait sûrement des belles choses là-dedans. Et je ne me sentais pas du tout attiré d'entrer dans cette institution. Mais maintenant que j'ai rencontré ces hommes, je me suis dit, ben, tout ce que je peux faire, c'est peut-être accueillir deux personnes dans une petite maison que j'ai pu, avec l'aide de quelques amis, une petite maison ici, à Trolley. Et tous les trois, on a commencé à vivre ensemble, avec l'aide d'un ami qui est resté 3 semaines, et puis d'autres sont venus. Et c'était une expérience très, très forte. À la fois, après avoir vécu un certain nombre d'années depuis ma démission de la marine, j'avais trouvé mon lieu. Et ce lieu, c'était une communauté avec des personnes qui jusqu'alors avaient été mises de côté, humiliées, enfermées et ont beaucoup souffert de l'humiliation. Bon, c'était une époque, les années 60-70, étaient des époques extraordinaires pour la vie communautaire. C'était l'époque après Vatican II, c'était l'époque où il y avait une expansion au point de vue économique. Après Vatican II, c'était un renouveau avec d'autres églises. Et, enfin, c'était un temps, je dirais, d'espérance et de créer une communauté à cette époque-là. C'était une époque où on trouvait beaucoup de soutien, beaucoup d'aide financière et à d'autres points de vue. Et en vivant ensemble, Raphaël et Philippe, qui étaient les deux que j'ai accueillis, Raphaël avait une méningite petit, il tombait, il était fragile, il avait en gros perdu la parole. Et Philippe avait une encéphalite, une jambe paralysée, bras paralysé. Lui parlait trop, mais on était bien, tous les trois. Et puis des gens sont venus aider et on a commencé à vivre ensemble. J'ai découvert une petite parole de Jésus dans l'évangile de Luc. Quand vous donnez un repas, n'invitez pas les membres de votre famille, n'invitez pas vos riches voisins, n'invitez pas vos amis. Mais quand vous invitez un banquet, invitez les pauvres, les estropiés, les infirmes, les aveugles, ceux qui ont été mis de côté. Et si vous les invitez, vous serez bénis de Dieu. C'est une béatitude. La béatitude de quitter le cercle restreint de la famille, de la culture dans laquelle on est, pour prendre du temps, pour manger ensemble. Aristote dit que pour devenir quelqu'un, il faut manger un sac de sel ensemble. Je ne sais pas combien. Thank you.
de repas fait au sac de sel. Enfin, ça veut dire manger ensemble, prendre du temps, entrer en relation, écouter les souffrances de l'autre, écouter ce qu'il dit, regarde avec bienveillance l'autre. Quelles que soient ses fragilités, ses pauvretés. Et c'est ainsi que l'arche a commencé à grandir. Au début, j'écoutais beaucoup le cri de ceux qui étaient encore enfermés à l'hôpital psychiatrique. Ce qui fait que l'arche a très très vite grandi. Et si aujourd'hui on réfléchit sur le passé, on se dit peut-être on a grandi un peu trop. Mais c'est parce qu'il y avait tellement de gens enfermés qui criaient que quelque part il fallait faire des choses. À une époque, je crois qu'on était arrivé à une communauté de 400 personnes. C'est un peu trop. Alors à une époque, on a dit on ne va plus rester comme ça, et sur les 400, on a créé 4 communautés autonomes, un à Compiègne, un autre à Cuise, un autre à Pierrefonds, une ici, et puis un autre qui est commencé à Beauvais. Aujourd'hui, on entend moins le cri, parce que les personnes avec un handicap sont avortées avant leur naissance. On a très peur de la fragilité. Et donc, les communautés qui naissent aujourd'hui en France, il y en a 34, mais à travers le monde, le cri, on l'entend moins. Et l'arche veut être un témoin en vivant ensemble avec les gens avec un handicap avec qui nous vivons et nous vivons depuis longtemps. Un signe que ces hommes et ces femmes qui sont tués avant leur naissance sont importants et qu'ils ont un message à donner. Chaque être humain a un message à donner. Chaque être humain a une mission dans la société et dans le monde et dans l'Église. Nous avons tous une mission. La mission de l'Arche, c'est de révéler. De révéler ces personnes comme Raphaël et Philippe. Sont des gens très beaux. Mais aussi, notre société, il y a un mal dans la société qui définit que l'être humain doit être comme ceci. Et nous allons approcher un temps proche où le suicide assisté, on est en train de dire que les gens âgés, quand ils commencent à perdre la mémoire, leurs capacités sont inutiles. Notre monde cherche la normalité parfaite et veut supprimer le reste. On est dans un monde très douloureux. Et à partir de ce que j'ai senti quand j'ai quitté les marines, le message de Jésus. C'est très beau, le message de Jésus. C'est très, très fragile. L'épître aux Éphésiens, Jésus dit, « Jésus est notre paix. Des deux peuples, il en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait. » Toutes ces choses qui séparent des êtres humains. Ce qui fait que on ne regarde pas l'autre avec respect. Lita Bassett est venue ici nous parler un moment. Lita Bassett, c'est un psychologue suisse théologienne. Elle nous parlait de la façon de regarder les gens avec bienveillance, de regarder chacun comme un trésor. Quelqu'un a posé la question, comment est-ce que je peux regarder quelqu'un qui est jihadiste avec bienveillance? Elle a dit, est-ce que vous priez pour eux? Parce que ces jeunes qui entrent dans le jihadisme sont des gens blessés, qui viennent très souvent des lieux qu'on appelle en France les lieux sensibles, où 50% sont dans des échecs scolaires et 50% n'ont pas de travail. Alors il y a une colère en eux, un sentiment d'être exclu, de ne pas avoir de valeur. Alors ils répondent à un idéal qui n'est pas un idéal, mais un chemin de destruction. Regardez chaque personne avec bienveillance. Il est évident que nous accueillons ici des gens quelquefois qui ont de la violence. Ce n'est pas toujours très facile d'accueillir leur violence. Il faut toujours se souvenir d'où vient leur violence. Ils ont été exclus, humiliés. Et leur cri, leur violence est un cri. Est-ce que quelqu'un m'accepte comme je suis? Derrière ta violence, il y a ta personne. Et tu es précieuse. Chaque être humain commence sa vie au sein d'une femme, au moment. Et chacun, il y a cette innocence primale. Cette innocence primale qui se dévoile chez le petit enfant. Mais cette innocence primale est blessée à cause de conflits, de rejets, de peurs, de perte de place, de sentiments d'exclusion. Est née alors la colère ou la dépression. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Tant de gens, leur innocence primale, leur personne la plus intime, ils sont beaux, ils sont extraordinaires. Ils ont été blessés, mis de côté. Des conflits avec leurs parents, ou abandon, ou peu importe. Fait qu'ils sont grandis à travers un monde conflictuel fait de peur, de violence, de rejet. Pour ceux qui ont été blessés, ça prend le temps pour qu'il y ait une guérison progressive. Je rappelle un petit gars qui s'appelait Francis. Il faisait sa première communion à Paris, dans une église à Paris. Un petit gars avec son handicap. Et puis, c'était une très belle Eucharistie. Après, il y avait une célébration avec la famille. Et durant la célébration, l'oncle de Francis, qui était aussi son parrain, est allé voir la maman. Et lui a dit, qu'est-ce que l'Eucharistie était belle. La seule chose qui est triste, disait-elle, c'est que lui n'a rien compris. a été très blessé. C'était un temps festif pour Francis. Et elle a été blessée. C'était vraiment pas la chose à dire à ce moment-là d'une célébration pour Francis et sa première communion. Et des larmes sont montées dans ses yeux. Le petit gars a vu les larmes de maman. Il a dit, ne t'inquiète pas, maman. Jésus m'aime comme je suis. Avec sous-entendu, j'ai pas besoin d'être ce que mon oncle aurait voulu être. Pas besoin d'être ce que peut-être toi, maman, aurais voulu. J'ai pas besoin non plus d'aurait voulu être ce que moi-même j'aurais voulu. Je suis ce que je suis. Et Jésus m'aime comme je suis. Et tout ce que je veux, c'est de grandir comme Jésus aurait voulu que je grandisse, mais comme je suis. Donc toute la question de l'arche, c'est d'accueillir des gens comme ils sont. Nous sommes dans un monde difficile, énormément de souffrances et énormément de questions, à notre époque en particulier, comment œuvrer pour la paix, comment accueillir chacun avec un regard de bienveillance, sachant que lui a une histoire. Et cette histoire est une histoire de souffrance. Une des responsables de l'Arche en Australie est venue ici avant d'œuvrer dans l'Arche et d'être dans l'Arche. Elle a œuvré pour aider les hommes et femmes dans la prostitution à se relever. Et un jour, elle entre dans le parc de Sydney, qui était un lieu de prostitution. Et il y a un jeune homme en train de mourir d'une surdose de drogue. Il était en train de mourir et ce responsable, qui est devenu responsable à l'âge, l'a pris dans ses bras. Et les dernières paroles de cet homme, c'était « Tu as toujours voulu me changer, tu n'as jamais voulu me rencontrer. Tu as toujours voulu me changer, tu n'as jamais voulu me rencontrer. » Et rencontrer, c'est prendre le temps. Dis-moi ton histoire. Parle-moi de tes souffrances. Parle-moi de ce que tu as vécu. Il ne s'agit pas de changer des gens, mais de les écouter. Et en les écoutant, de leur aider à découvrir est plus beau que tu n'oses le croire. Aider chacun à trouver, je dirais, sa petite voix intérieure. Je crois que c'était la petite voix intérieure qui m'a poussé à entrer dans la marine. C'est cette petite voix intérieure, je savais que je devais le faire, c'était de quitter la marine. Même si je ne savais pas très bien où j'irais, cette petite voix intérieure m'a dit aussi de commencer l'arche sans savoir comment ça allait se faire. Cette petite voix intérieure que le concile dit, cette petite voix intérieure, c'est le sanctuaire sacré en chaque être humain où la voix de Dieu se fait entendre.
la voix de Dieu se fait entendre, pour que je puisse grandir dans la justice, dans la vérité, dans l'amour, et que je ne sois pas simplement contrôlé pour que ce que les autres veulent de moi. Une petite voix intérieure qui me fait cheminer vers ma propre liberté intérieure. De découvrir que, oui, dans la vision de Dieu, je suis unique. Et comme le petit Francis, que je suis aimé de Dieu. Que chacun a cette petite voix intérieure qui le conduit, si on est vraiment à l'écoute, à une vraie maturité humaine, à devenir ce que nous sommes appelés à être et que nous puissions vivre notre mission dans notre monde, dans l'Église, pour que je puisse prendre ma part, pour qu'il y ait davantage de vérité, de justice dans notre monde. Je voudrais vous parler cet après-midi et demain, dans l'après-midi, je vous parlerai d'une rencontre avec Jésus. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une femme que nous avons accueillie ici en 72 ou 74. Elle avait 40 ans à cette époque-là. Elle avait eu une maladie virale. Elle avait un bras, une jambe paralysée. Elle était épileptique, diabétique. Mais ce qui l'a caractérisée surtout, c'est une immense violence. Elle hurlait, elle se jetait par terre, elle cassait des choses. Et là, nous vivons dans des petites unités. Elle était dans une unité où il y avait peut-être une dizaine de femmes quand même. Et c'est pas très facile quand il y a quelqu'un qui est mu par une violence et une rage. Et on avait vraiment besoin de notre psychiatre qui s'appelait Errol Franco et pour demander son avis. Et je rappelle ce que Errol a dit. Elle a dit, au fond, Pauline a vécu 40 ans d'humiliation. Ses parents ne voulaient pas une fille comme ça. Ils voulaient une belle fille qui pourrait se marier, avoir des enfants pour qu'eux puissent être des heureux grands-parents. Humiliée par ses parents, par la vie familiale, humiliée à l'école, parce qu'elle n'était pas une réussite, et puis ses handicaps étaient très visibles. Handicap, moquée dans la rue. On l'appelait un débile, un idiote, handicapé. Tu n'as rien à dire, tais-toi. Alors elle a beaucoup souffert. La plus grande souffrance pour beaucoup de gens, c'est l'humiliation. De ne pas être ce que les parents ont voulu que tu sois. Peut-être ne pas être soi-même ce qu'on a voulu. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce qu'ils sont. Il y a quelques jours est mort dans la communauté à côté Jean. Jean est venu ici en 69. C'était un homme extrêmement angoissé, qui avait une maladie mentale, une déficience intellectuelle, mais enfin, c'était quelqu'un.
Il avait des périodes terribles d'angoisse. Et puis quand les angoisses devenaient trop grandes et qu'il ne pouvait plus se contrôler, un peu comme Pauline cassant des choses, on devait l'amener en hôpital psychiatrique pour quelquefois 15 jours pour rééquilibrer les médicaments, etc. Et un jour, juste avant de l'amener en hôpital psychiatrique, il a crié « J'en ai marre de ma maladie ». Il y avait lui dans sa personne, puis il y avait sa maladie. Et souvent, ici, quand les choses sont difficiles, on voit la violence, on voit la maladie. On oublie combien tu as souffert, combien tes souffrances et tes colères. C'est normal parce que tu as trop souffert. On ne voulait pas de toi. Jean venait d'une famille, oui, du quart monde, famille très pauvre, à tout point de vue, qui ne comprenait pas la maladie. Alors, Errol, quand ils en parlaient ensemble de Pauline, disait... Sa violence est un cri. Est-ce que quelqu'un m'accepte tel que je suis? Elle avait pris même son corps en haine. Elle ne voulait pas être ce qu'elle était avec son handicap. Ça lui a pris du temps. À accepter ce qu'elle était, son corps était ce qu'elle était. Mais Errol nous a dit, rappelle toujours que son cri est un cri. Est-ce que quelqu'un veut devenir mon ami et m'accepte comme je suis? Ça voulait dire que les assistants, comme on les appelle ici, aussi se transforment. L'arche a grandi à travers les 52 ans. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont des volontaires civiques, d'excellents jeunes. Très peu ont la foi en Jésus. Ils sont par contre. Mais ils viennent ne sachant très peu. Ils viennent très souvent pour aider. C'est bien d'aider. C'est bien d'être généreux pour les pauvres. C'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas juste d'aider. Il s'agit juste, ça ne s'agit pas juste généreux. C'est bien d'être généreux. C'est bien d'aider les gens en difficulté. Mais ça ne suffit pas. Ici à l'Arche. Ce que Pauline veut, c'est de devenir mon ami, d'entrer dans une relation. Non pas de changer nos violences, c'est pas ça, mais d'accueillir ce que je suis. Dis-moi ton histoire. Raconte-moi ce que tu as vécu. Raconte-moi tes souffrances. Bien sûr, quand elle devenait violente, il faut dire, il faut s'arrêter cette histoire-là. Pas pour la punir, mais dire arrête. Et puis, viens me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es violent? Dis-moi ton histoire. Ce qu'elle avait besoin, c'est que quelqu'un l'écoute avec tendresse, avec respect. Parce que toi, tu es toi. Et tu es unique. Et tu es précieux. Et tu as une histoire. Comme chacun de vous, vous venez ici avec votre histoire. J'ai mon histoire. Mon histoire où il y avait des bons moments, des moments d'échec, de lutte, difficile. C'est ainsi qu'une communauté grandit avec quelquefois des tensions, des difficultés. J'ai mon histoire. Et chacun de vous, vous venez à l'arche avec votre histoire, vos souffrances, vos questions. Et je voudrais simplement et espérer que chacun de vous, vous puissiez découvrir, un peu comme le petit Francis, que tu es aimé de Dieu et que tu es précieux et que tu es importante. Il fallait du temps. Il fallait aider Pauline à redécouvrir son corps. Son handicap était très visible à cause de sa jambe paralysée, de son bras paralysé, ce qui faisait qu'on se moquait d'elle, en l'appelant le débile, l'idiote et tout le reste. Alors elle avait pris son corps en haine. Ça a pris du temps pour qu'elle accepte son corps comme il est. Ça prend du temps. Parce qu'il fallait que d'autres l'accueillent. Peut-être on découvre que Dieu nous aime quand on découvre aussi que d'autres nous aiment. Et que l'autre est un messager de Dieu, ou peut-être on commence à découvrir les autres parce qu'on vit une expérience de Dieu à l'intérieur de nous. Une sorte de certitude, cette petite voix intérieure qui m'a mis en route, comme mon papa m'a dit, j'ai confiance en toi. Ou quand j'ai quitté la marine, que Dieu est là. Et qu'il s'agit d'écouter cette petite voix pour que je m'accepte mieux et pour que j'accepte aussi les autres mieux. Toute la question à l'arche, c'est pas juste d'aider Pauline à découvrir qu'elle est plus belle qu'elle n'ose le croire. Mais c'est aussi avoir Pauline qui découvre que les autres sont différents d'elle et qu'elle a une mission non seulement de s'accepter elle-même, mais accepter les autres, qui sont différents de différentes façons. Car il ne s'agit pas simplement que je sois accepté, mais aussi je dois grandir pour accepter les autres, pour aimer les autres différents et quelquefois qui ne me comprennent pas. Pauline a grandi. Elle n'aimait pas beaucoup le travail ici, comme beaucoup de gens n'aiment pas le travail. Mais progressivement, elle est devenue paisible. Elle aimait beaucoup chanter les vieux chansons de Paris. Elle aimait chanter, elle aimait danser, même avec sa jambe. Elle aimait beaucoup être au cœur de la fête. Mais, comme nous tous, elle a vieilli. Et en vieillissant, son corps est devenu trop lourd pour ses jambes. Et elle devait être en chaise roulante. Et étant en chaise roulante, elle a perdu un peu d'autonomie. faut l'aider à se vêtir, l'aider à prendre la douche. Il fallait qu'il y ait une assistante, quelqu'un l'aide. Et des vieilles colères sont remontées, souvent des colères qu'on a pu avoir jeune ou à une époque. Ça s'apaise, ça va mieux. Mais quelquefois, les colères sont là et ça remonte. C'est avec tout le monde. On semble avoir fait un beau passage d'accueil de soi. Bitoc, quelque chose se passe et les colères remontent contre les autres, contre soi-même, contre ses parents, contre je ne sais pas quoi. Alors quand elle était en chaise roulante, ces vieilles colères se sont remontées, et puis ces cris, etc. Il fallait qu'elle apprenne le mot magique. Quel est ce mot magique? Le mot magique, c'est « j'ai besoin de toi ». J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton amitié. J'ai besoin de Jésus et de l'Église. J'ai besoin d'amis, j'ai besoin d'une communauté, peu importe. Il y a un danger de croire qu'on est au centre du monde et que je peux me débrouiller et que tous les autres sont mauvais. Non. Je suis ce que je suis et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide d'un ami privilégié, j'ai besoin d'aide d'un prêtre, d'un psychologue, j'ai besoin d'aide pour ne pas rester dans la colère, de ne pas rester dans la dépression. Parce que l'humiliation nous amène soit à des colères, soit une forme de dépression. Pauline, cette humiliation l'a amenée à la colère. Pour d'autres, ça a une forme de dépression où je me coupe de tout le monde. Je m'enferme dans ce que je suis et tant pis ce que les autres veulent. Peut-être une forme simplement de m'enfermer sur moi-même. Ou avec un autre. Pour toute l'histoire de l'être humain, c'est de grandir progressivement, s'ouvrir. Et c'est ça ce que nous apprenons à l'Arche. Accepter chacun avec son histoire, avec ses fragilités, ses handicaps. Et ici, à la ferme, on a c'est un privilège d'accueillir des gens qui ont vécu parfois par des moments difficiles, d'humiliation. On accueille des gens de la rue, on accueille des gens qui ont été séparés, divorcés, etc. Tous ceux qui ont été humiliés, mis de côté et qu'on leur a dit « tu ne vaux rien », pour les aider à découvrir le chemin de la paix. Une découverte à travers une communauté, à travers des amis, à travers l'Église, à travers, je ne sais pas, un groupement, une communauté comme vous-même, être un dans le Christ. On a besoin d'amis, on a besoin de gens qui ont vécu les mêmes choses. Et ça m'apporte de la paix. On a besoin aussi des gens qui nous aident à nous situer dans l'Église, dans la société. Avec Pauline, tout ça, ça a pris du temps. Je rappelle, avant sa mort, on a fait une grande pèlerinage à Lourdes. Et là, elle a dit à quelqu'un, Je prie tellement que je meurs dans mon sommeil, parce que je ne veux pas mourir. Et puis quelques mois après ce pèlerinage, Dieu l'avait entendu, sa prière, elle est morte durant la nuit. Avant sa mort, de temps en temps, j'allais la voir dans son foyer. Et puis, on était ensemble, bavardés. Quelquefois, je le voyais seul. Et elle voyait que j'étais fatigué, mettait son bon bras sur ma tête. Elle disait, pauvre vieux. Une jeune femme comme elle a dit, il n'y a pas très longtemps, elle avait beaucoup souffert. Elle a dit, quand on est venu, c'est Jean qui s'occupait de nous. Maintenant, c'est nous qui occupons de Jean. Elle est dans mon foyer, elle veille toujours. Est-ce que tu as pris tes médicaments? Est-ce que tu n'es pas trop fatigué, etc. On crée communauté ensemble. Et moi, vieillissant, je suis très heureux d'être là avec Anicette, avec Patrick. Nous pouvons être simplement ce que nous sommes, avec nos fragilités. Chacun de nous, il y a le mot magique. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'amitié, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'une communauté d'amis. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin peut-être de comprendre des choses. Alors je suis très heureux que vous êtes là. On se retrouvera parce que ce soir, on aura une petite cérémonie que nous vivons ici, dans toutes nos retraites. C'est le lavement des pieds. Et c'est toujours un moment très doux. Avant le lavement des pieds, je vous expliquerai de quoi ça correspond. Et puis j'aurai la joie de vous revoir demain matin et d'avoir le déjeuner avec vous. Alors j'espère que vous aurez un très bon après-midi.